Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'Église catholique propose en exemple aujourd'hui aux plus de 1 milliard de fidèles de par le monde la vie d'un homme, celle de Francesco Forcione, aujourd'hui connu sous le nom de Padre Pio en Italie. Le nom de cet homme est aussi connu que celui du pape ou du président de la République. Mais comment devient-on saint? C'est la question que nous allons nous poser ensemble ce matin, non pas comment aime-t-on tant que l'on finit par être pris pour un signe de la présence de Dieu, mais comment cela marche-t-il? Quel est le processus? Focus donc ce matin sur cet envers du décor pour une balade au pays de la sainteté. Canonisation, comment ça marche? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, pas tout de suite, mais on espère dans un instant, Paul Vigouroux, prêtre et postulateur de la cause en béatification du père Jacques Hamel. Voilà, le père Jacques Hamel, bien connu de l'opinion publique, ce prêtre qui a été assassiné en pleine messe il y a peu. Sœur Marie-Béatrice Mbeg, vous êtes conseillère générale des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, Jacqueline Baillet, vous êtes présidente de l'association pour la mémoire du père Marie-Antoine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, a-t-on le père Paul Vigouroux? Voilà, pas encore. Donc, on va se lancer dans cette émission, on va dire, sans notre... Ah, il est là. Bonjour Paul Vigouroux.
Bonjour monsieur.
Tout va bien, vous êtes parmi nous. Donc vous êtes le postulateur de la cause en béatification du père Jacques Hamel. Avec vous dans cette première partie d'émission, puisque vous nous faites l'amitié d'être là parmi nous, on va essayer de décrypter un petit peu le processus de canonisation ou de béatification. Avant toute chose, quelques questions autour du père Jacques Hamel. Vous êtes donc le postulateur de la cause en béatification, on verra ce que veut dire ce jargon. Ce n'est pas rien, j'imagine, pour un homme que de se plonger dans la vie du père Jacques Hamel et puis dans ce qui lui est arrivé.
C'est vrai qu'il faut le faire avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'attention, ne serait-ce que par rapport à la famille, par rapport aux frères et sœurs du père Hamel. Et puis un homme, c'est toujours un mystère d'amour, de vie, avec ses ombres, ses lumières, avec son péché, avec l'amour qu'il veut donner. Donc il faut toujours le faire avec beaucoup d'attention.
Comment vous vous êtes retrouvé en fait à devenir le postulateur de la cause en béatification du père Jacques Hamel? Vous êtes porté volontaire parce que ce qui lui est arrivé vous a beaucoup frappé? Comment ça se décide? Comment est-ce qu'on tout d'un coup on a ça qui vous tombe sur la tête?
En fait non, je n'ai pas été volontaire du tout. C'est l'évêque qui m'a proposé de cette mission, qui m'a un jour lancé une petite apostrophe pour me dire est-ce que tu serais partant pour cette mission. Et il se trouve que je venais de finir les études de droit canonique, et donc j'avais été un petit peu bercé dans le droit de l'Église, et donc un peu à même de pouvoir décortiquer une procédure.
Alors, le père Jacques Hamel a été assassiné alors qu'il célébrait la messe. Est-ce que vous pouvez, à gros traits, au-delà de cet événement, assassiné donc par un fondamentaliste musulman, un islamiste, comme on dit, est-ce que vous pouvez, à gros traits, nous présenter cet homme, même si ce n'est pas l'objet d'abord de cette interview?
Cet homme était un homme très simple, très ordinaire, très effacé, très discret, mais qui vivait la foi, l'espérance, la charité, au quotidien, dans les gestes ordinaires de la vie. Et c'est peut-être ce qui faisait finalement son côté extraordinaire, c'est qu'il vivait tout simplement l'Évangile et il vivait tout simplement avec ceux qu'il côtoyait tous les jours. Rien de plus, rien de moins. Il n'a rien fait d'extraordinaire au sens où parfois on peut l'entendre. Il a juste été là, lisant l'Évangile, la proclamant, la vivant au quotidien.
Est-ce qu'aujourd'hui, là où il a été assassiné, et vous nous rappellerez parce que j'ai un trou de mémoire où c'était, il y a aujourd'hui des gens qui viennent, qui viennent prier, qui viennent se recueillir, ou moins sur sa tombe?
Le père Hamel a été assassiné donc à l'église Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui est en banlieue rouennaise, en banlieue sud. Il y a effectivement des groupes qui passent, des groupes de paroisses, des groupes de prêtres, ou des groupes informels, qui vont tant à l'église et qui vont aussi au cimetière, qui est enterré à Bon Secours, au cimetière qu'on appelle le carré des prêtres du diocèse.
Alors, à propos du procès donc en béatification, vous allez nous détailler un petit peu ça. Il y a trois étapes, si j'ai bien compris. Serviteur de Dieu, vénérable, bienheureux ou saint. Tout d'un coup, l'Église se décide à se pencher sur la vie d'un homme pour un jour le proposer en exemple. Comment est-ce que ça marche? Qui décide tout d'un coup de lancer un tel processus?
Celui qui décide de lancer un processus, c'est l'évêque. L'évêque du lieu où est mort ce qu'on appelle le serviteur de Dieu. Il le fait normalement au bout de 5 ans après son décès. Parfois, il est encouragé par une association de fidèles qui l'encourage, qui essaie de démontrer l'intérêt, l'utilité, l'opportunité d'ouvrir une enquête diocésaine. Mais c'est bien l'évêque qui, lui, de lui-même, a conscience ou se dit, tiens, là, il y a quelque chose, quelqu'un qui mériterait qu'on s'y intéresse de plus près. Et c'est l'évêque qui nomme les différents personnages qui vont agir durant cette enquête diocésaine, et c'est auprès de l'évêque qu'est remise ensuite l'enquête diocésaine, qu'il la transmet à Rome pour une étude du dossier.
C'est un processus long, complexe, on ne va pas pouvoir rentrer dans tout le détail. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un procès? En fait, c'est une enquête à charge et à décharge, c'est ça? Expliquez-nous.
On appelle ça un procès parce que c'est une recherche de la vérité. Procès comme processus, si vous voulez, mais il n'y a pas d'accusé. Voilà, il n'y a pas de. Alors c'est vrai que c'est à charge et à décharge. On cherche à démontrer ou à montrer une vie avec ses ombres et ses lumières, sachant que personne n'est parfait. Mais il n'y a pas d'accusé. Même pour le père Hamel, hein, il n'y a pas d'accusé. On n'accuse pas les assassins. On cherche juste à montrer est-ce qu'il y a eu une vie évangélique, est-ce qu'il y a eu une vie ou un don de sa personne, en l'occurrence jusqu'au martyr, ou un don de sa personne dans une œuvre charitable. Procès comme processus, comme recherche de la vérité.
J'ai vu que dans le procès, il y avait, quand j'entendais par décharge aujourd'hui, un promoteur de justice, anciennement surnommé donc l'avocat du diable. Oui. Cette personne a la responsabilité d'essayer d'être un peu la mouche du coche lors du procès?
Pas vraiment. Elle essaye vraiment aujourd'hui d'être celui qui va vérifier qu'on ne fait l'impasse sur rien, qu'on tout est bien examiné. Vous voyez, qu'il n'y a pas des choses qu'on va dire, non, ça, on ne prend pas. Non, il vérifie que tout est bien dans le dossier, qu'on ne fait rien, qu'on ne fait aucune impasse sur rien, pour que le dossier soit vraiment complet, et qu'on présente une vie humaine dans sa totalité.
J'aimerais qu'on se penche un tout petit peu sur l'histoire des canonisations. Là aussi, on va avancer à grands pas, mais pendant longtemps, la sainteté était en fait déclarée par la vox populi, par la voix populaire. On a pu voir ça à l'occasion du décès de Jean-Paul II. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas, les gens sur la place Saint-Pierre de Rome ont commencé à chanter « Santo subito, santo subito ». Et quand on se penche dans le calendrier des saints proposés par l'Église aujourd'hui, l'immense majorité des saints ont en fait été proclamés saints de la sorte, non?
C'est vrai que pendant très très longtemps, la fameuse vox populi, hein, qui vox populi, vox dei, la voix du peuple, la voix de Dieu, c'était le moyen pour inviter un évêque à déclarer quelqu'un de saint ou de bienheureux. L'évêque confirmait ensuite par une célébration liturgique la vox populi. Et c'est peu à peu que l'Église, enfin que Rome, a pris la main. Et puis peu à peu a codifié tout un processus, parce qu'elle s'est un peu méfiée parfois des vivas un petit peu passagers, elle s'est méfiée parfois des supercheries, donc elle a voulu entamer peu à peu un processus bien codifié, et elle a commencé à le faire au XVIIIe siècle. C'est vrai que c'est assez tardif, et puis ensuite cette procédure a été réformée par Jean-Paul II en 1983, où vraiment la décision finale a été apportée au pape, qui est le pape qui finalement décide toujours in fine d'un processus de béatification ou de canonisation.
Alors j'ai vu que même dès le 12e siècle, peut-être était-ce les balbutiements des procès en canonisation, qu'on avait la trace du plus ancien procès en canonisation d'un certain Galgano Guitotti, oui. Saint Galgano, ermite mort en 1181. Il y a aujourd'hui une inflation de saints, si je puis dire, qui interroge un certain nombre de fidèles. Cela parle à une autre partie, mais voilà, le peuple de Dieu est toujours bien varié. J'ai vu que sous Jean-Paul II, il y avait eu 382 canonisations, donc entre 1978 et entre 2005. Le pape François lui-même canonise beaucoup de d'hommes et de femmes. Comment expliquer cette inflation, entre guillemets ?
Oui, il me semble qu'aujourd'hui, l'Église, enfin le peuple chrétien, a moins besoin de dogmes, de doctrines, que d'exemples de vie concrètes. Ça parle plus des exemples concrets de vie que des théories doctrinales. C'est vrai que l'important dans l'Église, pour la foi chrétienne, c'est la vie des hommes, notre vie. Et le Christ est venu sauver nos vies. Et quand on béatifie quelqu'un, eh bien on montre comment la grâce de Dieu, elle a pu mener quelqu'un à une vie belle, joyeuse, heureuse, donnée. C'est vrai que l'Église a pour but la sainteté. Le Concile Vatican II le dit avec beaucoup de force, hein, tous appelés à la sainteté, et que tout ce que fait l'Église, les pèlerinages, les sacrements, la Bible, etc., c'est pour favoriser en nous, développer en nous un chemin de sainteté. Et donc l'Église, pour certains, elle dit, ils ont abouti. Voilà, on regarde, on constate, on courage, allez-y, tous continuez. Il y a quelques-uns, ça a marché, donc allez-y.
D'où cette proposition de multiplier les canonisations. J'aimerais qu'on se penche encore sur un ou deux aspects, au risque de choquer certains auditeurs. J'aimerais que vous nous expliquiez combien coûte en fait un procès en canonisation. On a pu entendre un peu des critiques sur ce sujet, disant que étaient canonisés aussi ceux qui avaient les moyens de l'être, que parfois ces canonisations coûtent très cher, bref, que certains ordres étaient plus habilités à pousser, voire même qu'il y avait plus de saints occidentaux, on va dire du monde développé et riche, que des pays en voie de développement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres et comment est-ce que l'Église essaye de réguler cette réalité ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un coût pour faire, entre guillemets, des saints. D'abord un coût humain, parce qu'il faut du personnel formé pour mener une enquête diocésaine de béatification. Moi, c'est vrai, je pense parfois au Père Amel, et puis je pense aussi parfois aux martyrs chrétiens en Syrie, au Moyen-Orient. Dans ces pays, il n'y a pas les moyens humains de faire des enquêtes. Et puis, il y a un coût parfois financier, c'est vrai, qui est variable un peu, qui varie selon... parce que l'Église adapte, bien sûr, le prix, on va dire, selon les régions du monde. Mais il y a un coût, c'est vrai, d'examen, de payer ceux qui étudient, non pas dans le diocèse, mais à Rome. Il y a des spécialistes, les photocopies, transport, enfin, voilà. Et après, on adapte selon... Les endroits, c'est entre eux, à peu près, je crois, à peu près 10 000 ou 50 000 euros à peu près, selon un peu comment chacun peut payer aussi.
Hein. Et le pape François n'a pas essayé de mettre de l'ordre là-dedans, on va dire, de donner une fourchette haute et de faire en sorte que les pays en voie de développement soient aidés sur ce sujet ? D'accord, bon alors je l'avais trouvé, mais comme je l'ai plus sous les yeux, je peux vous dire que ma question était faussement interrogative. Pour finir, sur le père Jacques Hamel, on a coutume, enfin j'ai lu qu'il fallait mourir en odeur de sainteté, en réputation de sainteté. Vous disiez que le père Jacques Hamel était un homme très discret. Est-ce là seulement son martyre et la manière en fait dont il a vécu son assassinat, puisque vous pouvez peut-être nous raconter, en fait, il a bien eu conscience de ce qui s'est passé, il a eu un mot à l'adresse de son agresseur. Est-ce là, en fait, là, quelque part, ce qui justifie sa réputation de sainteté ?
C'est vrai qu'il a dit « Va-t'en, Satan », au moment où il était assassiné. C'est vrai qu'il n'a pas répondu à la haine par la haine. C'est vrai qu'il a, les témoins le disent, hein, il a aimé, il a même pardonné, un peu comme Jésus sur la croix. Je crois que ce qui est important, c'est justement l'assimilation, hein, la proximité du Père Hamel avec le Christ sur la croix, qui a souffert, qui est mort, assassiné, sans haine. Et puis c'est vrai que de partout dans le monde, on a eu des échos, des SMS, hein, des mails, des courriers, des courriels. Nous parlons du Père Hamel. Je crois que de quasiment tous les pays du monde, on a eu quelque chose qui est arrivé. Même certains courriers sont arrivés à l'évêché en disant « Jacques Hamel, France, c'est arrivé chez nous ». Oui, une réputation énorme parce que s'attaquer à un pauvre prêtre qui faisait pas de mal, bien autour de lui, ça a touché beaucoup de personnes. Ça rappelle aussi pour beaucoup, eh bien, tous ces prêtres un peu cachés, un peu discrets, qui ont fait le travail, qui ont œuvré à l'œuvre de Dieu pendant des années, sans faire de bruit, comme le père Hamel.
Eh ben merci beaucoup Paul Vigouroux, je rappelle vous êtes prêtre et postulateur de la cause en béatification du père Jacques Hamel. On va faire une première pause et puis on va retrouver deux figures de sainteté ou en tout cas en odeur de sainteté de la région. Émilie de Villeneuve qui a été canonisée par le pape François, qui est décédé à Castres et originaire de Toulouse. Et puis le père Marie-Antoine de Lavore, très connu de certains auditeurs mais peu encore de d'autres, mort au début du siècle dernier et à son décès il y avait des dizaines de milliers de personnes pour sa messe d'enterrement. Canonisation, comment ça marche? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On se penche sur cette question et puis c'est l'occasion de découvrir quelques grandes figures, grandes et belles figures. On était au début de l'émission, pour rappel, avec Paul Vigouroux qui est prêtre et postulateur de la cause en béatification du père Jacques Hamel. Voilà, prêtre discret qui vit l'extraordinaire dans l'ordinaire, nous racontait Paul Vigouroux, et qui est donc mort en odeur de sainteté, enfin voilà, qui est mort, on peut pas dire martyr aujourd'hui, mais en tout cas beaucoup le pensent tout bas. Nous sommes avec sœur Marie-Béatrice Mbeck, qui est conseillère générale des sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, et Jacqueline Baillet, présidente de l'association pour la mémoire du père Marie-Antoine. Alors, sœur Marie-Béatrice Mbeg, vous êtes là pour nous parler de Jeanne-Émilie de Villeneuve. Vous n'êtes pas la postulatrice de sa cause en canonisation, mais on est content de vous avoir. Et c'est une enfant du pays qui a été canonisée donc en 2015 par le pape François. Elle est née donc à Toulouse et elle est décédée à Castres. Certains la connaissent, d'autres fort peu. En tout cas, c'est une fierté pour notre région. Vous étiez à sa canonisation ?
Oui, Emmanuel.
Voilà, racontez-nous un petit peu comment c'était. C'était donc à Rome, c'est le pape François qui l'a canonisé. Quel souvenir oui. vous avez de cette célébration ?
Une célébration familiale, parce que la veille de la canonisation déjà, la congrégation avait organisé une veille de prière où les délégations des quatre continents où la congrégation est présente ont pris part. Et cette célébration a été vraiment un temps de prière familiale, de rencontre, et ce qui, pour nous, reflète vraiment ce qu'était Émilie, ce désir de faire, de non seulement de la congrégation, mais de toutes les personnes qui sont autour de la congrégation, une famille. Une famille qui a Dieu pour père, disait-elle, et Marie pour mère.
Alors, il faut dire que vous avez bien du mérite de participer à l'émission parce que vous me disiez que vous trouviez que votre français était un peu trop hésitant. Donc, on vous remercie beaucoup de votre générosité. Avant qu'on se penche un petit peu sur la vie de Jeanne-Émilie de Villeneuve, est-ce que vous pouvez nous raconter un moment de la canonisation où il y a toujours un grand portrait, place Saint-Pierre de Rome, qui est dévoilé et on voit donc une peinture de la Sainte. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire et puis peut-être nous dire l'émotion qui était la vôtre ?
Ce moment était, disons, exceptionnel. Déjà, en arrivant vers la place Saint-Pierre, apercevoir ce poster était pour nous déjà la canonisation, était déjà pour nous signe de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle nous a laissé comme héritage, un moment vraiment d'émotion et de fierté.
Allez-y, continuez, je vous en prie.
Voilà, quand le pape, la postulatrice, a demandé la canonisation, et que le pape a répondu par l'oraison qui consacrait Émilie sainte, proposée à la dévotion de toute l'Église. C'était un moment de grâce, un moment de joie, un moment de...
Un moment de liesse, on imagine.
Voilà. Donc
Jeanne-Émilie de Villeneuve a donc été canonisée par le pape François, c'était donc le 17 mai 2015. Elle est née donc à Toulouse en 1811, décédée à Castres en 1854. Elle était la troisième de quatre enfants, fille du marquis de Villeneuve et de la marquise. Sa maman décède assez jeune et assez rapidement, elle se retrouve un peu aux commandes des affaires familiales à tout juste 19 ans. Racontez-nous comment elle a eu l'intuition ou le désir de créer, alors qu'elle était, en tout cas pour nous, extrêmement jeune, à peine 20 ans, la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception.
Au fond, Émilie voulait rentrer chez les filles de Saint-Vincent de Paul. Touchée par la situation des jeunes, des enfants de ce temps-là, elle voulait servir les pauvres. Elle disait à son papa, au moment où elle lui demandait exposer son projet, « Père, c'est pour Dieu que je vous quitte. Je veux aller servir les pauvres dans la congrégation des filles de Saint-Vincent de Paul. » Et son papa demande, surpris bien sûr, lui demande, mais tu ne voudrais pas faire quelque chose ici sur place avec ta fortune, pouvoir servir les pauvres, parce qu'elle ne voulait pas qu'elle quitte la maison, qu'elle parte, il se retrouvait seul. Et il lui demande un temps, le temps de consulter la famille. Et on lui demande un délai de 4 ans.
Alors en tout cas, donc derrière, la congrégation a été créée, donc la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. On vous appelle aussi Les Sœurs Bleues, voilà, sœur Émilie de Villeneuve, donc qui a été au service des plus pauvres toute sa vie, des jeunes ouvrières, des malades, des prostituées, des condamnés en prison, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette femme. On y reviendra un petit peu sur sa spiritualité. Au cours des procès, on fait donc une enquête sur la réputation de sainteté des dites personnes, comme aujourd'hui donc sur le père Jacques Hamel. Mais à un moment, il faut qu'il y ait comme une confirmation du ciel, en ce sens qu'il faut qu'il y ait des miracles post-mortem. J'aimerais que vous nous racontiez brièvement le miracle qui a permis la canonisation de sœur Émilie de Villeneuve. C'est une petite Maria de Souza qui s'est retrouvée paralysée après une électrocution. Racontez-nous ce miracle. Allez-y, ma sœur.
Voilà, comme vous le dites, dans cette région, il y avait une communauté de sœurs de l'Immaculée connue de la famille. Et donc, elles se sont rendues auprès de la famille qui vivait ce drame. Et la sœur touchée, une des sœurs, arrive à la communauté et demande à la communauté de faire la neuvaine pour cette fille. Et elle remet également la neuvaine à la famille. Et donc, pendant cette neuvaine, tandis qu'il était...
Alors, excusez-moi, je vous coupe un petit peu, je vais vous aider. Donc, Maria de Souza donc, a été victime donc, d'une électrocution. Quand elle arrive aux urgences, elle avait donc un arrêt cardio-respiratoire. Le médecin dit à son papa, mais votre fille est morte, que voulez-vous que je fasse? Son papa lui répond, mais elle n'est pas morte, faites tout ce que vous pouvez. Il y a une réanimation cardiaque qui dure près d'une heure, et puis elle se réveille, mais dans un état extrêmement grave. Et derrière, après la prière, il y a donc ce miracle. Racontez-nous ce miracle.
Ben, ce miracle, c'est que, voilà, elle a trouvé la guérison, disons qu'elle allait, les médecins étaient quand même surpris de ce qui se passait, et
donc elle est guérie. Je vous aide, hein. Le 21 mai, donc on commence la neuvaine, et la neuvaine est terminée, et le 30 à 18h, son état clinique est complètement changé. L'enfant recommence à se développer comme une enfant normale, et donc cette petite fille, on peut la voir avec une statue d'Émilie de Villeneuve, avec un beau sourire et une bonne bouille. Vouliez vous pencher un petit peu sur la spiritualité d'Émilie de Villeneuve, parce que quand l'Église nous propose donc comme ça des figures remarquables, elles nous disent souvent en fait un petit peu de ce qu'est Dieu. La première chose que vous vouliez souligner, c'est le grand abandon qu'elle avait à la volonté divine. Expliquez-nous cela.
Voilà. Émilie vivait de cet abandon et de cette confiance. Et cela, déjà au moment de sa vocation, quand la famille lui demande ses temps d'attente, elle l'a reçu comme chemin de la volonté de Dieu. Et effectivement, c'est durant ce temps que ça va se préciser l'idée de la vocation. Vivre cet abandon, passer aussi par la recherche de la volonté de Dieu dans un discernement constant de cette volonté. Elle discernait pas comme ça en l'air, mais elle consultait toute personne qui pouvait l'aider à
discerner la volonté de Dieu. Il y a un autre épisode aussi, est-ce que vous pouvez nous raconter, c'est que sur la fin de sa vie, elle a été l'objet de nombreuses critiques, elle s'est elle-même retirée en fait, de la direction de l'ordre. Racontez-nous ce moment qui dit un peu son grand abandon.
Bon, l'objet de critique, c'était plutôt au début de la fondation, quand elle ouvre sur Castres un atelier pour les jeunes filles. Toutes les couturières de la ville se lèvent et puis ça en dit. Et un moment très difficile, même au niveau du clergé, spécialement son directeur et tout ça. Et cela l'a amené à se retirer, à prier, à réfléchir et à faire un grand acte d'abandon dont le texte nous est transmis. Et c'est plutôt vers la fin de sa vie, elle a renoncé à la direction de la congrégation. Je dirais d'une manière très providentielle, très prophétique, parce qu'elle disait « Il est bon que la congrégation puisse évoluer sans moi. Qui sait si je mourrai dans peu de temps, la congrégation serait prête à continuer sans moi. » Et ce qui arriva un an plus tard.
Eh ben, merci beaucoup, sœur Marie-Béatrice Mbeg. Je rappelle, vous êtes conseillère générale des sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Vous êtes à Castres, où cette belle figure, donc Jeanne-Émilie de Villeneuve, est décédée. C'était le 2 octobre 1854, femme qui a donc été canonisée par le pape François le 17 mai 2015. On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver un autre saint local, même s'il n'est pas encore déclaré comme tel, le père Marie-Antoine de Lavaur.
Radio Présence sur le Causse, 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Canonisation, comment ça marche? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, au cours de cette émission, il y a eu Paul Vigouroux, qui est prêtre postulateur de la cause en béatification du père Jacques Hamel, célèbre aujourd'hui en France, assassiné lors d'une messe par un fondamentaliste islamiste. Sœur Marie-Béatrice Mbeig pour évoquer donc la figure d'Émilie de Villeneuve, enfant du pays, née à Toulouse et décédée à Castres, fondatrice des Sœurs Bleues, comme on les appelle, qui a été canonisée en 2015. Et donc Jacqueline Bailey, présidente de l'association pour la mémoire du Père Marie-Antoine. On va donc parcourir avec vous la vie de cet homme. On l'appelle le saint de Toulouse. J'aimerais qu'on commence par évoquer le monde, la foule qu'il y avait lors de son enterrement. Il est donc décédé le 8 février 1907. Racontez-nous un peu ce que les journaux ont rapporté de cet événement, Jacqueline Bailey.
Mais il y avait déjà la foule pour veiller sur lui pendant. Il est mort le vendredi, les obsèques ont eu lieu le dimanche. Donc pendant 3 jours, nuit et jour, il y avait une foule immense qui défilait au couvent. Ensuite, cette procession, et on a compté cette procession où il était porté, à bras d'homme, jusque du couvent de la Côte-Pavée à Saint-Étienne, puis de Saint-Étienne au cimetière. Et donc...
Donc la Côte-Pavée, c'est un quartier de Toulouse.
C'est un quartier de Toulouse.
On dit que la foule venait jusqu'en bas de la Côte-Pavée, c'est ça? Il y avait combien de personnes?
Il y avait entre 50 et 60 000 personnes. Il y en avait 6 ou 7 000 qui suivaient la procession, mais il y en avait surtout sur tous les trottoirs tout au long du trajet.
Voilà, vous me disiez pendant la pause qu'il y avait 200 000 habitants à l'époque à Toulouse, donc voilà. Ça faisait quand même presque un quart de la population.
Un quart de la population. Et il y a une époque où il n'y avait pas ni la radio, ni quoi que ce soit pour annoncer, ni les mails.
Et alors, qui était là aussi à son enterrement? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça? C'est important.
Ben, il y avait tout le monde, mais il y avait en particulier les clochards. Tous les pauvres gens de la rue, et ce sont eux qui ont annoncé partout dans les marchés, etc., que le père Antoine, comme il l'appelait, était mort. Et c'est ce qui a fait sans doute qu'il y avait autant de monde, mais de tout milieu finalement. Et avec beaucoup de silence, on sentait que c'était une population qui rendait tout à coup, après plein de malheurs qu'ils ont eu, parce qu'on était à une époque où les prêtres ont eu et les religieux n'ont pas toujours été très, très, très applaudis et très accueillis, et ben, c'était tout un peuple qui rendait cet amour qu'il avait su leur donner finalement tout le temps. C'était très touchant.
Puisque c'était donc après la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905.
En 1907.
On va quand même faire une courte bio du père Marie-Antoine. On part du principe que certains ne le connaissent pas du tout. Il naît donc à Lavore, d'où son nom, père Marie-Antoine de Lavore, dans le Tarn. Il décédera donc à Toulouse. Il naît en 1825. Il décède à Toulouse en 1907. Rapidement, il se destine, enfin, il a la vocation, il entre chez les Capucins, il prend le nom du frère Marie-Antoine, et puis on lui demande...
Vous allez un petit peu vite, en ce sens qu'il rentre au petit séminaire, puis au grand séminaire, et que pendant 5 ans, il est prêtre diocésain à Saint-Gaudens.
Avant de devenir vicaire. Capucin.
Et là, il entend l'appel de Saint-François, et il rentre donc à 30 ans. Au noviciat à Marseille des Capucins.
En tout cas, donc, on lui demande d'établir à Toulouse un couvent des Capucins. Il va y rester une très grande partie de sa vie. C'est pour ça, entre autres, qu'on l'appelle le saint de Toulouse. C'est vraiment là qu'il avait planté sa tente.
C'est là où il a été domicilié, mais il n'y a jamais été, parce qu'il a fait des missions dans toute la France, d'abord dans la région de Toulouse, puis après dans le Midi, puis après dans toute la France, presque d'une façon continue. Donc, il passait assez peu de temps
C'était sa base arrière, alors.
Mais c'est... voilà, c'était sa base arrière, tout
alors,
à fait.
Alors, qu'est-ce que c'est que c'était...
Son couvent.
Qu'est-ce que c'était que ces missions, quand on dit qu'il faisait des grandes missions dans le sud-ouest, à quoi ça ressemblait?
Oh, c'était plus que dans le sud-ouest, il en a fait vraiment partout.
Aujourd'hui, dans les villages, on peut voir des croix de mission, mais on a parfois du mal à comprendre ce que c'est, en quoi ça consistait.
En croix de mission, en vierge, quelquefois les deux, il a des plantations par centaines. De croix et de statues de la Vierge. Ben, c'était soit l'évêque du lieu, en général c'était l'évêque du lieu qui demandait au couvent des Capucins un missionnaire et en général, compte tenu de la renommée du Père Marie-Antoine, on précisait s'il était possible d'avoir le Père Marie-Antoine et ils y allaient en général à deux, trois.
Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les villages quand ils arrivaient?
Et quand ils arrivaient, eh bien, en tout cas, le Père Marie-Antoine, il faisait en sorte que ça se sache. Il faisait beaucoup de visites de gens qui comptaient, mais il en faisait aussi dans les champs, dans les fermes, dans les malades, etc. Et parallèlement, alors il commençait par les enfants. Et la mission, c'était une série de cérémonies d'office, mais c'était surtout un enseignement. Aussi. Et donc, il commençait par les enfants des écoles, c'était les plus faciles à capter à l'époque, à la sortie de l'école, le catéchisme. Avec le catéchisme, il savait leur donner des petits travaux qui entraînaient les mamans et toutes les familles. Puis, donc, après, il avait les mamans, et puis, pour finalement attaquer, comme il disait, le dernier carré d'hommes.
Ça, c'était...
Et finalement, il y a même une mairie dans le Tarn, dans le Tarn, où il y a le conseil municipal a noté officiellement que tous les hommes de la ville, pour la première fois, étaient allés à la messe et avaient communié pour Pâques.
Voilà, ceux qui étaient au bistrot étaient aussi allés à la messe. Il y a une chose qu'il faut dire qui nous aide un petit peu à resituer l'époque et ce qu'a vécu cet homme, c'est qu'il a connu Bernadette au lendemain des apparitions. Et il a fait
entre l'avant-dernière et la dernière apparition, les tout début juillet.
Voilà, elle assiste donc à la messe en présence du Père Marie-Antoine de Lavoir. Elle reçoit de ses mains la communion. Il se lie d'une grande amitié aussi donc avec le curé doyen de Lourdes de l'époque, l'abbé Dominique Peyramal. Et puis ensemble, ils vont lancer en fait les grands pèlerinages à Lourdes, qui aujourd'hui se paraissent être le quotidien de Lourdes. Mais le Père Marie-Antoine est derrière en fait un des pionniers de ce lieu de dévotion et de spiritualité.
Tout à fait, et très tôt, ben, du fait qu'il est sans cesse en mission, bien entendu, sa mission devient une préparation au pèlerinage de Lourdes. Donc voilà, et puis il y avait toute une liturgie à organiser. C'est donc lui qui, avec le soutien sans faille du curé Peyramal, qui crée la procession au flambeau, la procession du Saint-Sacrement, la procession des malades, la prière nocturne. Voilà, tout ça, c'est lui. Et surtout, c'était un prédicateur hors norme, mais c'était aussi un confesseur.
Alors c'est juste
norme.
Sur le point de la prédication, qu'est-ce qu'on entend par un prédicateur en norme? C'est-à-dire qu'il avait, évidemment, on imagine beaucoup de cœur, mais il avait le verbe haut, c'est ça
ou... Imaginez surtout que ce sont des foules, que c'est souvent à l'extérieur, ou en tout cas au lieu des chairs, mais qu'il n'y avait pas de micro en tout état de cause.
Déjà, il avait une voix, c'est ça
Donc il fallait un coffre, une voix énorme, effectivement, pour parler, et puis des discours à l'emporte-pièce, un petit peu, où presque la foule et le prédicateur se répondent.
Jacqueline Bailey, vous êtes une des, on va dire, grandes promotrices de sa cause en béatification. En tout cas, vous travaillez à ce que cet homme soit connu, que sa vie soit connue. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Je ne sais pas, comment est-ce que le Père Marie-Antoine vous a autant, quand vous a-t-il autant touché et pourquoi est-ce que vous travaillez avec autant d'ardeur à le faire connaître?
Il n'y a peut-être pas de raison tellement rationnelle. Je crois que c'est peut-être ma foi en Dieu qui fait que La providence ou le hasard fait que ce soit, j'ai eu à m'occuper du père Marie-Antoine. Je ne le connaissais pas, il ne m'intéressait pas spécialement.
Il vous est tombé dessus, c'est ça?
L'histoire serait trop longue à raconter, mais il m'est vraiment tombé dessus dans les jours qui ont suivi le 21 septembre 2020 de mémoire toulousaine, c'était la catastrophe d'AZF. Et c'est là que je l'ai rencontré.
J'aimerais que vous nous parliez d'un point à propos des procès en béatification. C'est la continuité de réputation de sainteté qu'il faut donc prouver. En tout cas, c'est pour un certain type de procès qu'on appelle les procès historiques. Comment vous y êtes pris pour le père Marie-Antoine? On fait quoi? On se plonge dans les archives du couvent, de la ville? Comment on s'y prend pour trouver cette continuité de sainteté?
Du fait qu'effectivement que c'était une cause historique, on n'avait que des documents, mais pour le père Marie-Antoine, ce qui nous a donné l'idée qu'il fallait y aller, c'était que on continue à avoir des témoignages. Il y avait une continuité dans les témoignages oraux, pas seulement écrit. C'est-à-dire que dans les communautés, dans les familles, de mère en fille, j'allais dire, on se passait les histoires du père Marie-Antoine et cette sainteté qui avait illuminé un petit peu la ville et la région et la France. Il y avait une fierté pour les Toulousains de l'avoir, ce père Marie-Antoine.
Vous vouliez aussi, vous m'avez cité aussi en préparant l'émission ensemble, que le Front Populaire dans les années 30, en tout cas la ville de Toulouse, lui rendait hommage, donc près de 30 ans après sa mort, de la part de gens qui ne sont pas, on va dire, qui n'étaient pas des piliers de sacristie. Racontez-nous cette histoire.
Tout à fait. Ça a été lors de... Parce que dans le cadre du procès, on a décidé d'exhumer son corps du cimetière de Terre-Cabade et de le ramener d'ailleurs au couvent du coup. Mais donc, et c'est lors de cette exhumation que la ville de Toulouse a sorti dans son bulletin municipal de novembre 1935 15 pages sur le père Marie-Antoine avec de nombreuses photos et des pages que vous auriez pu écrire ou moi. Tout y passait, hein, Lourdes, etc. D'ailleurs, le titre, Les Hommes Illustres de Toulouse. Et comme ils n'ont pas eu assez de journaux pour fournir la demande, ils ont tiré un très grand nombre de tirés à part en grandissant les photos. Donc ça faisait 22 pages et avec pour titre Le plus grand moine du siècle.
Qu'est-ce qui l'est touché, en fait,
on va dire, en fait, c'est parce qu'il savait que...
C'était l'affection qu'il avait pour les plus pauvres, voilà. La présence qu'il avait auprès des plus pauvres.
Voilà, parce que c'était un peu leur clientèle aussi. Voilà, il y avait des élections. Donc, ce père Marie-Antoine, dont on croyait qu'il allait être béatifié dans les mois qui venaient. Hein. Donc, voilà, c'était cet amour des pauvres, effectivement.
Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire où en est le procès en béatification du père Marie-Antoine de Lavaur? Est-ce qu'il est très avancé? Et est-ce que, dans le fond, on n'attend plus qu'un miracle? Racontez-nous.
Eh bien, actuellement, il va être bientôt fait vénérable, puisque...
C'est donc la première étape, hein, vénérable, je rappelle.
Vénérable, voilà.
Vénérable, bienheureux et saint.
Voilà, on est vénérable quand l'héroïcité des vertus a été entérinée par un décret. Et ce décret devrait être signé en janvier. Et c'est une des étapes vers la béatification, la seconde étant la réputation de sainteté, et on a pu, par de multiples documents et témoignages, montrer que cette réputation de sainteté avait une continuité totale, qu'on ne ressortait pas la cause comme ça, pour faire joli, ou parce que, voilà, une petite fantaisie d'aujourd'hui. Non, qu'il y avait vraiment une continuité lourde et solide.
Et après, on attendra
le miracle. Parallèlement, on travaille sur le miracle, parce que le miracle existe, et parallèlement, on travaille sur ce miracle. Donc, les choses devraient aller assez vite.
Voilà, une belle figure à découvrir. Il faut dire aussi que vous tenez une chronique quotidienne à cette antenne pour faire découvrir donc cette grande et belle figure, la vie extraordinairement riche, donc le père Marie-Antoine de Lavore. Cette chronique est diffusée donc tous les jours à 6h15 et à 15h25. 15h25, c'est juste avant le chapelet. Il y a même une intégrale qui est diffusée le dimanche à 7h15, 6h15, 15h25, en tout cas en semaine. On peut donner le titre d'un ouvrage, le père Marie-Antoine, un pionnier de la nouvelle évangélisation. C'est un livre paru aux éditions du Pêche, le père Marie-Antoine, un pionnier de la nouvelle évangélisation, paru aux éditions du Pêche. Merci beaucoup et merci à tous les autres invités d'être venus un peu nous décortiquer ces processus de canonisation et nous faire une balade en pays de sainteté avec des belles figures locales. Merci.
Merci Emmanuel.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.